Bonjour à tous. J'aimerais commencer ce message en pensant à une image. Lorsque j'ai commencé à réfléchir au titre et au sujet que j'allais aborder, peut-être un jour ou deux plus tard, après avoir commencé à réfléchir au sujet, j'ai reçu des informations sur WhatsApp. Je pense que c'est Monsieur Reval ou quelqu'un d'autre qui a mentionné WhatsApp, mais ma famille et moi, mes parents en Afrique du Sud et d'autres frères, nous avons tendance à communiquer par le biais de l'application de médias sociaux WhatsApp. J'ai donc reçu une photo de ma mère qui peignait magnifiquement ce que je veux commencer à vous décrire et ce dont nous allons parler ce matin. Je vais prendre le temps de décrire une image très, très simple. Vous ne pouvez probablement pas voir sur l'image si c'est dans un parc. Mais c'est très probablement dans un parc, sur une route pavée où vous voyez un homme âgé qui marche. Comme c'est le cas pour de nombreuses personnes âgées, et nous avons entendu parler du baptême, tout le monde, en vieillissant, ne peut plus marcher aussi bien. Nous avons donc besoin d'aide en vieillissant. Vous pouvez voir qu'il marche avec effort parce qu'il a besoin de son déambulateur. Mais il l'utilise probablement aussi parce qu'il est dans un parc et qu'il sait qu'il aura besoin du soutien de son déambulateur. Mais il regarde à sa gauche et il regarde vers le bas et imaginez ce qu'il regarde. Quelqu'un d'autre marche dans la direction opposée et le regarde. Et qui le regarde? C'est un petit garçon de 18 mois ou moins, un bambin. Il marche également avec un déambulateur. Mais il s'agit de ces petits déambulateurs pour bébés, des déambulateurs d'entraînement de Fisher-Price. Je me souviens que nos enfants ont commencé à marcher avec eux. Ils sont munis de petits boutons sur le côté et si l'enfant se retourne, il ressemble à une petite tondeuse à gazon. Il y a un guidon, quatre roues, et l'enfant apprend à se tenir debout, puis à se soutenir et à marcher. Vous voyez donc ce monsieur âgé qui marche dans une direction et ce jeune garçon qui marche dans une direction complètement différente et leurs regards se croisent. Le jeune garçon regarde vers le haut et l'homme âgé le regarde vers le bas. Vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu ou vous n'avez pas encore reçu le sujet dont nous allons parler, mais vous avez cette image très attachante dans votre esprit d'un homme âgé qui regarde un jeune garçon vers le bas et d'un jeune garçon qui regarde un homme âgé vers le haut. Passons à Zacharie. Je vous invite tous à vous tourner vers le chapitre 8 de Zacharie. Commençons par quelques versets et peignons une image très similaire dans votre esprit. Nous sommes ici, frères, à la fête, au chapitre 8 de Zacharie. Et nous pensons à un cadre semblable à celui d'un royaume, à quelque chose qui se produira dans l'avenir. Nous sommes ici à la fête, nous voyons la belle nature qui nous entoure, nous voyons les activités, nous apprécions ce que Dieu a mis en place pour nous, mais nous pensons aussi à ce que ce sera dans un avenir proche. Commençons donc par Zacharie 8 et lisons à partir du premier verset. Vous allez voir une image très similaire à celle que je viens de décrire. Verset 1. La parole du Seigneur des armées, parlant du Père, me fut adressée en ces termes. À Zacharie, ainsi parle le Seigneur des armées. J'ai été jaloux de Sion avec une grande jalousie, et j'ai été jaloux d'elle avec une grande fureur. Ainsi parle le Seigneur, je reviens à Sion. J'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée la ville de la vérité. Aujourd'hui, nous savons que Jérusalem n'est certainement pas la ville de la vérité. Comme vous le savez, il s'y passe beaucoup de fausses religions, beaucoup de conflits. C'est donc quelque chose, une image que Dieu commence à peindre dans nos esprits de l'avenir, du royaume où Jérusalem, la ville de la paix, sera aussi appelée la ville de la vérité. Et la montagne du Seigneur des armées, la montagne sainte. Ainsi, la montagne de Dieu s'abaissera et le siège de Dieu sera situé, et il régnera avec le Christ, avec les saints de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur des armées, encore une fois le Père, et frères, lisons en peignant ce tableau, des vieillards et des femmes âgées habiteront encore dans les rues de Jérusalem, et chacun aura son bâton à la main, à cause de son âge. Il dit encore, ce qui signifie qu'à un moment donné, ce n'était plus le cas, que l'on ne voyait plus d'hommes et de femmes âgées, en particulier des femmes, des hommes et des femmes marchant dans les rues, et il est dit avec son bâton, avec son soutien. Le bâton est une canne, à l'époque où Dieu a donné cette instruction à Zacharie, évidemment, en Israël, il n'avait pas de déambulateur comme nous en avons. Construit en aluminium avec des roues et de nos jours, il y a un système de freinage où les gens, vous les voyez marcher dans les épiceries, les personnes âgées, et ils ont un petit panier devant et ils peuvent prendre leur pain et ils peuvent prendre leur article préféré de l'étagère et ils peuvent marcher et s'ils veulent s'arrêter, ils appuient simplement sur le frein. Mais ici, nous voyons une image très similaire où Dieu dit que des hommes et des femmes marchent dans les rues de Jérusalem avec leurs bâtons, leurs cannes, avec un soutien. Lisons le cinquième verset. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons. Il ne s'agit pas d'un ou de deux garçons, mais d'une foule de garçons et de filles jouant dans les rues de la ville. J'aimerais vous poser la question suivante, quand avez-vous vu cela pour la dernière fois, là où vous vivez, quand les personnes âgées étaient dans les rues et que les garçons et les filles jouaient au cricket, si vous jouez au cricket ici, et je pense à l'époque où j'ai grandi, au cricket ou au rugby, à lancer la balle ou à taper dans un ballon de football, à jouer aux billes dans la rue ou à n'importe quel autre jeu, à jouer au yo-yo ou à ce que nous appelions les Kelly and Crooks, c'est-à-dire que les garçons couraient après les filles avec des armes à feu et qu'ils étaient les Crooks. Certains étaient les Crooks et les autres étaient les Cowboys and Crooks. On ne voit plus ça de nos jours. Les personnes âgées s'assoient sous leur porche et profitent du paysage parce qu'elles ne peuvent peut-être plus marcher aussi bien, alors elles s'assoient et apprécient de voir les enfants, les rires dans les rues. Alors, pourquoi Dieu, lorsqu'il parle de Jérusalem, lorsqu'il parle de l'avenir, nous présente-t-il la même image que celle que j'ai peinte à partir de la petite image que j'ai reçue de ma mère? C'est important pour Dieu quand il parle de cela, c'est presque comme s'il prenait un détour, en pensant qu'il est le Seigneur des armées, qu'il est le Dieu de la guerre et qu'ensuite il va parler des petits-enfants et des personnes âgées. Passons au verset 6. Ainsi parle le Seigneur des armées. Encore une fois, Dieu le Père, pensez à ce qu'il a en tête. Nous voulons peindre l'image de ce qu'il a à l'esprit. Nous voulons faire ressortir dans chaque message sa pensée dans l'Écriture. Ainsi parle l'Éternel des armées, si c'est une merveille aux yeux du reste du peuple en ces jours. L'image qui a été peinte, merveilleuse aux yeux des gens, entendez ce qui est dit ici. Qu'il soit aussi merveilleux à mes yeux, dit le Seigneur des armées. Nous allons voir ce qu'est le mot merveilleux et nous pourrons peut-être vous donner quelques indications. Merveilleux signifie merveilleux. Cela signifie être grand, surpassé ou être extraordinaire. Pour Dieu, cette image que nous avons peinte est extraordinaire, extra spéciale. La relation entre la jeune génération, en sautant une génération, et les générations plus âgées, vous pourriez dire les petits-enfants et les grands-parents, en sautant les parents, pour ainsi dire, cette relation entre les jeunes et tout le monde est très importante aux yeux de Dieu. Très, très importante pour lui. Cette image décrit, mes frères, une relation spéciale et c'est ce que nous allons examiner ce matin. Quelles leçons pouvons-nous tirer, vous et moi, parce que ce n'est pas seulement pour les jeunes et les plus âgés, ce message s'adresse à tout le monde. Il y a des leçons pour vous et moi que nous pouvons tirer de cette image. Des leçons que nous pouvons tirer de cette relation spéciale entre les jeunes et les personnes âgées, Parce que nous avons vu que c'est important pour Dieu. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Il est dit que c'est merveilleux pour Dieu. Nous pensons à lui, et quand nous prions à son sujet, nous disons qu'il est le Tout-Puissant. Nous avons déjà lu qu'il est appelé le Seigneur des armées. Nous pourrions penser, pourquoi s'intéresserait-il à notre âge? Pourquoi s'intéresserait-il aux jeunes? Pour le peuple de Dieu, il est important de s'occuper des jeunes, et il est tout aussi important pour Dieu de s'occuper des personnes âgées. Mais il y a une relation spéciale, vous le voyez, et j'ai aimé voir cette image, et j'ai immédiatement su que c'était ce que je pouvais utiliser pour peindre dans votre esprit l'image d'un jeune garçon qui regarde vers le haut. Ce n'était peut-être même pas son grand-père. C'était peut-être un homme qu'il ne connaissait pas, mais il a admiré cet homme plus âgé. C'est ce que font les jeunes. Ce n'est pas seulement une question de physique, parce qu'ils sont plus petits. En fin de compte, lorsque les jeunes garçons et les jeunes filles grandissent, ils admirent les personnes plus âgées. Pensez à votre jeunesse, aux personnes que vous admiriez. Vos parents, oui. Peut-être vos grands-parents. Il y avait des hommes et des femmes, des enseignants, des membres de votre communauté, des grands-parents. À l'université, pensez à ceux que vous admiriez et que vous admirez peut-être encore aujourd'hui. Nous avons tendance à nous tourner vers le ministère pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous donne une direction. Nous nous tournons vers Dieu, le Père, pour tout ce dont nous avons besoin. Ainsi, tous les êtres humains se tournent vers quelqu'un pour recevoir des instructions, des conseils, de l'aide, du soutien. Regardons les choses sous un angle différent. Allons à Esdras. Esdras, chapitre 3. Dieu a dit, et j'ai insisté sur ce point lorsque nous l'avons lu, qu'ils verront à nouveau cette image des jeunes parce que j'ai grandi dans les années 80 en Afrique du Sud. Et déjà à ce moment-là, je devrais me tourner vers Esdras 3. Déjà à ce moment-là, c'était quelque chose qui était en train de disparaître. Nous pouvions jouer, aller à l'épicerie, où je me souviens que je m'intéressais au couteau. J'allais au magasin du coin. Il y avait différents couteaux suisses et j'économisais de l'argent pour m'acheter un couteau de poche. Ensuite, il y avait les jeux vidéo, on prenait quelques pièces de monnaie et on allait jouer aux jeux vidéo. Puis on voyait les chewing-gums, et on achetait un chewing-gum. Vous laissiez votre vélo dans la rue, vous entriez dans le magasin, vous y restiez une demi-heure, puis vous sortiez. Votre bicyclette est là, et vous pouvez jouer la nuit. Vous pouviez voir les personnes âgées sortir et profiter des jeunes qui jouaient dans la rue. Mais en vieillissant, cette image a complètement disparu. Et encore une fois, posez-vous la question, demandez-vous quand vous avez vu pour la dernière fois, si vous l'avez jamais vu, comment les jeunes et les personnes âgées jouaient. Les jeunes jouaient et les vieux en profitaient. Maintenant que vous êtes au chapitre 3 d'Esdras, lisons le verset 8. Esdras chapitre 3 et verset 8, il est dit, la deuxième année de la reconstruction de la maison de Dieu à Jérusalem, le deuxième mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le reste des frères, les sacrificateurs et les lévites, et tout ce qu'ils auront ramené de captivité à Jérusalem, se mirent en marche. Israël a donc été emmené en captivité. Et ceci décrit spécifiquement leur sortie de Babylone, de la captivité, et leur retour à Jérusalem. Cette ville dont nous avons parlé dans Zacharie. De la captivité, et ils établirent les Lévites à partir de l'âge de 20 ans. Vous pouvez donc voir la jeune génération décrite dans ce verset, si vous lisez rapidement, vous pouvez facilement passer outre, mais il mentionne ceux qui ont 20 ans et plus. Pour faire avancer l'œuvre de la maison du Seigneur. Alors se tenait Josué, avec ses fils et ses frères. Cadmiel parle ici des hommes et des fils. Les fils de Juda se rassemblèrent pour faire avancer les ouvriers de la maison de Dieu, les fils de Henadad avec leurs fils et les frères des Lévites. Lorsque les constructeurs eurent posé les fondements du temple de l'Éternel, ils firent marcher les sacrificateurs en costume avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales, pour louer l'Éternel selon l'ordre du roi David d'Israël. Ils ont donc commencé à faire certaines choses. Encore une fois, ils ont commencé à poser les fondations et à faire des choses qui dureront un certain temps, pendant qu'ils étaient en captivité. Ils n'ont pas fait ces choses lorsqu'ils ont commencé à remettre en ordre l'adoration de Dieu et la construction du temple. Et ils chantaient ensemble, en célébrant et en louant le Seigneur, parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde dure à toujours, à l'égard d'Israël et de tout le peuple qui poussait de grands cris en louant le Seigneur, parce que les fondements de la maison du Seigneur étaient posés. C'est la raison pour laquelle ils ont crié. Cela a créé une immense joie. Pensez à la joie que nous avons ici, à la fête de Dieu, si nous faisons de petites choses, simplement en organisant une journée en famille, ou en sortant pour un repas, ou en faisant un feu de joie. Nous pouvons donc nous identifier à ce discours, mais poursuivons un peu la lecture. Mais beaucoup de prêtres. Il est dit, mais, alors lisons ce qui est dit ici, mais changeons un peu d'avis, et les Lévites et les chefs des prêtres, qui étaient des hommes anciens. Les anciens, c'est-à-dire la génération la plus âgée. Ils ne pouvaient pas comprendre ou se souvenir de ce qui s'était passé en Israël ou à Jérusalem lorsque le temple était encore debout, lorsqu'il était encore à Jérusalem, encore dans leur pays, ils ne s'en souvenaient pas. Mais les anciens, la vieille génération s'en souvient. Qui avait vu la première maison? Soudain, lorsqu'ils ont vu ce qui se passait juste devant eux, cela a créé une expérience différente pour les hommes plus âgés. Il est dit, ceux qui avaient vu la première maison, lorsque les fondements de la maison du Seigneur furent posés sous leurs yeux, pleurèrent à haute voix, et beaucoup poussèrent des cris de joie. Il y avait donc un mélange dans l'ancienne génération, un mélange de réjouissance. Peut-être que la jeune génération se réjouissait tout simplement. Ils ont entendu parler du temple dans le passé, et ils peuvent voir la joie autour d'eux, et cela les rend joyeux aussi. Mais les hommes plus âgés, les anciens, ont commencé à pousser des cris de joie. De sorte que le peuple ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs du peuple, car le peuple poussait de grands cris, et le bruit était entendu de loin. Pourquoi les vieillards se sont-ils mis à pleurer? Pourquoi ont-ils pleuré sur ce qu'ils venaient de voir? Ils se souviennent de ce qu'ils ont perdu. Ils se souviennent de ce qu'ils avaient, et de ce qu'ils ont retrouvé. Frères, revenons à l'image que nous avions à l'esprit, où Dieu dit, encore une fois en Israël, nous voyons disparaître cette image des jeunes qui jouent dans les rues, et des personnes âgées qui en profitent. Cette relation entre les jeunes et les personnes âgées, nous ne la voyons pas seulement, mais nous la voyons aussi dans d'autres parties de la société. Cette relation, cette dépendance à l'égard des jeunes et des personnes âgées à l'égard des jeunes, est en train de disparaître. Les enfants sont occupés à d'autres choses, et les personnes âgées peuvent avoir l'impression d'être oubliées, d'être mises de côté. Mais Dieu, dans son esprit, veut que nous nous souvenions de ce jour parce qu'il s'agit d'une image de royaume où il dit, cela reviendra. Nous devrions nous réjouir du fait que Dieu accorde tant d'importance à cette relation dans un contexte semblable à celui d'un royaume. Et c'est important pour nous aussi, ici à la fête. Lorsque nous pensons à cette relation entre jeunes et vieux, nous constatons qu'elle n'existe plus. À un moment donné, elle aura complètement disparu au point que Dieu devra la restaurer à nouveau, ce qui entraînera des cris. Tout comme les fondations ont été posées sur le temple et ont provoqué des cris et de la joie chez les gens, et la génération plus âgée s'est réjouie. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous qui êtes les têtes blondes parmi nous, cette même image, si vous pensez à vos petits-enfants, que vous ne voyez peut-être pas souvent ou que vous aimeriez voir sur cette même image, vous apporte une émotion attachante parce que vous pensez à quel point ils sont spéciaux. Vos enfants étaient très spéciaux pour vous, mais la jeune génération occupe une place particulière dans le cœur des grands-parents. Et encore une fois, pour les petits-enfants, si je pense à mes grands-parents du côté de mon père et de ma mère, j'ai de merveilleux souvenirs avec mon grand-père du côté de ma mère, ma grand-mère du côté de ma mère, et aussi lorsque nous rendions visite aux parents de mon père. Il y a là quelque chose de spécial et d'unique, et c'est aussi, comme nous l'avons déjà vu, important pour Dieu. Alors, frères, regardons, encore une fois, quelques leçons que nous pouvons apprendre aujourd'hui et extraire de la parole de Dieu. Il parle partout de cette relation. Il parle des jeunes. Il parle des personnes âgées dans ses paroles, il ne vous oubliera donc jamais. Nous sommes une église vieillissante et nous pensons à nos vies comme nous le savons, nous sommes des habitations temporaires, nous sommes ici à la fête, penser à rester dans des cabanes, c'est penser à être dans des habitations temporaires. Nous pensons aussi à notre propre corps. Nous pensons à nos vies. C'est également temporaire, mais nous pensons aussi à l'avenir. Le fait que Dieu nous promette la vie éternelle et que nous allons en faire partie, mais regardons le premier point sur lequel j'aimerais mettre en évidence une leçon que nous pouvons tirer, à savoir le physique par rapport au spirituel. Tournons-nous vers le chapitre 20 des Proverbes. Les choses physiques et les choses spirituelles sont toutes deux importantes pour Dieu, mais le cercle de la vie, mes frères, lorsque nous passons de jeunes hommes et jeunes femmes à un stade où nous devenons parents, nous devenons plus âgés, nous allons à l'université, nous commençons à nous installer dans notre maison, nous commençons à nous installer dans notre travail, dans notre carrière, pour ainsi dire, c'est la génération du milieu. Et puis, à un moment donné, nous vieillissons, et Dieu dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Nous sommes donc des personnes temporaires, nous sommes physiques, et nous savons que la vie est également temporaire. Elle est aussi physique. Vous êtes déjà dans les proverbes. Donnez-moi un moment pour y aller aussi, Proverbe 20 et nous lirons le verset 29. Frères, ce message d'aujourd'hui vise à encourager les deux générations, les jeunes et les vieux, et tous ceux qui se trouvent entre les deux. Et nous verrons que c'est ce que Dieu a à l'esprit pour vous encourager de bien des manières. Proverbes, chapitre 20 et verset 29. Dieu a compris et Salomon a été l'homme le plus sage qui soit resté. Il a compris ce qu'il dit ici au verset 29. La gloire. La gloire peut signifier que la beauté des jeunes hommes, c'est leur force. Quand vous êtes un jeune homme et que vous pensez à votre enfance, vous entendrez souvent vos grands-parents ou vos parents, votre père ou un professeur à l'école, vous pratiquez un sport qui est, nous avons entendu parler du rugby ou du football, et l'entraîneur dira, ne vous inquiétez pas, vos muscles vont se développer. À un moment donné, vous commencez à grandir et ce ne sont que les os qui grandissent. Les garçons s'interrogent alors sur les hommes qu'ils admirent et ils voient les hommes de leur adolescence ou de leur vingtaine, qui sont ciselés. Leur corps est musclé de partout par ceux qui l'ont développé, et ils admirent cette génération et les hommes plus âgés, et ils veulent être comme eux. En fin de compte, ils commencent à être poussés à sculpter leur propre corps en faisant du sport, en allant à la salle de gym, en faisant de l'exercice, par n'importe quel moyen, mais Dieu savait qu'il dit, la gloire, la beauté des jeunes hommes, c'est leur force. Cela s'applique également aux filles. Quand on est jeune, on veut être fort de différentes manières, mais on veut aussi être fort physiquement. Il est question de la force physique des jeunes gens et de la beauté. Regardez ce que dit le verset. Il ne dit pas « mais la beauté », il dit « et la beauté ». Il s'agit donc des jeunes, de ce qu'ils ont de beau. Et la beauté peut aussi signifier la force, et la force ou la beauté des vieillards, ce sont leurs cheveux gris. En fin de compte, nous changeons nos muscles jusqu'à ce que nous réalisions que nous avons peut-être besoin d'un soutien. Un soutien physique, un soutien émotionnel au fur et à mesure que nous vieillissons, parce que nous perdons cette force physique. Pourtant, à l'âge de 30 ou 40 ans, ces jeunes hommes commencent soudain à réaliser que ce n'est pas seulement ma force physique qui va me permettre d'avancer dans la vie. En fin de compte, j'ai besoin de plus que cela. C'est pourquoi nous pensons au physique et au spirituel. Le physique et le spirituel. Les deux sont très importants pour Dieu, mais en fin de compte, le physique doit changer pour le spirituel. C'est une leçon que les jeunes peuvent apprendre. Les cheveux gris signifient la sagesse de ceux qui sont plus âgés. C'est votre beauté, l'expérience que vous avez acquise tout au long de votre vie. Tout ce que vous avez vécu, les jeunes peuvent l'admirer et en tirer des leçons. Et vous pouvez également vous réjouir du fait que, tout au long de votre vie, à travers les expériences que Dieu vous a fait vivre, cette tête chenue représente finalement la sagesse, le caractère, l'élément spirituel dont nous avons besoin lorsque notre force physique dont nous nous sommes vantés lorsque nous étions plus jeunes. Je peux tout faire. Je peux faire ce travail. Je peux travailler X heures par semaine. Je peux élever mes enfants. Je peux couper l'herbe. Je peux réparer la maison, réparer ma voiture et aider quelqu'un, mais en vieillissant, on se rend compte que l'on ne peut pas faire ses valises aussi vite qu'avant. J'ai besoin d'une liste de choses à faire plus longue que par le passé. Dans le passé, je pouvais peut-être me rappeler ce que je devais emballer pour la fête, mais maintenant, je dois avoir une liste de choses à faire. Et avec l'âge, cette liste est de plus en plus longue. Vous avez besoin de soutien. On ne peut plus se contenter de dire « je peux le faire tout seul ». Peut-être devez-vous maintenant vous faire accompagner parce que vous avez besoin d'aide rien que pour sortir de la voiture. Nous nous rendons compte que notre corps n'est pas, quand nous vieillissons, de la même manière qu'il l'était quand nous étions plus jeunes. Mais encore une fois, frères, les deux sont importants pour Dieu. C'est ce que dit Salomon, et donc les jeunes et les vieux, il y a quelque chose de beau dans le fait de vieillir. Il y a quelque chose d'honorable, quelque chose dont nous devrions nous réjouir. Pourtant, lors de la fête, lorsque nous nous réjouissons, il y a quelque chose qui nous concerne tous. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions regarder et penser et redouter parce que je vieillis. Je perds la force que j'avais. J'aimerais être aussi forte que lorsque j'étais plus jeune. Cela nous aide à nous rappeler que nous pensons de plus en plus à ce qui se passe lorsque nous sommes plus âgés. Je fais partie de la génération intermédiaire et je peux donc parler aux jeunes et aux moins jeunes. Vous commencez à expérimenter un peu et à penser à quand vous étiez plus jeune et vous voyez vos parents, ils sont la génération suivante que la génération plus âgée et vous commencez, ils sont au milieu, commencez à comprendre certains éléments de ces deux générations. Vous vous rendez compte et vous commencez à penser un peu plus loin. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui nous attend? Ici, à la fête, nous devons prendre le temps d'y réfléchir. Oui, nous sommes une génération plus âgée, nous sommes une église plus âgée à bien des égards pour les frères de votre congrégation, mais vous avez aussi les jeunes, et vous pouvez leur enseigner des leçons et ils peuvent vous enseigner des leçons. Je tiens à souligner cette relation entre vous. Il ne s'agit pas seulement de votre famille de sang, mais aussi des membres de la congrégation. Nous sommes une famille spirituelle. Pensez aux jeunes qui vous entourent, et les jeunes, vous devez penser à ceux qui vous entourent, c'est-à-dire les personnes plus âgées aussi. Pensez à ceux avec qui vous êtes assis pendant le repas du sabbat ou peut-être ici à la fête. Cherchez-vous ceux de qui vous pouvez apprendre et les personnes plus âgées cherchent-elles les jeunes de qui elles peuvent aussi apprendre certaines choses? Dieu veut mettre l'accent, mes frères, sur la transition dans la vie. Pourquoi nous a-t-il permis de vieillir? Ce n'est pas seulement pour que nous finissions notre vie. Il y a un avantage entre ces deux générations, et Dieu veut que nous en fassions l'expérience. Il veut que nous nous concentrions sur cela et que nous en tirions des leçons, mais le physique finira par passer au spirituel, la force physique que nous avons finira par s'affaiblir. C'est le premier point sur lequel je voulais insister. L'autre point, sur lequel nous nous concentrerons davantage, concerne les avantages mutuels pour les deux générations ou les deux groupes. Dieu l'a conçu. Il a conçu cette vie physique de manière à ce que chaque génération puisse bénéficier de l'autre. Si vous vous concentrez uniquement sur vous-même, si les jeunes se concentrent uniquement sur leur propre force physique, ils deviennent égocentriques. Si nous sommes plus âgés et que nous nous concentrons sur nos maladies, nos défauts ou le fait que nous perdons nos forces, cela peut aussi être égocentrique. Si nous nous concentrons sur cette relation, il y a une pléthore d'avantages pour vous et pour les jeunes et les vieux. Allons au chapitre 3 d'Isaïe. Nous lirons ici le chapitre 3, et nous commencerons au verset 1, car voici le Seigneur des armées. Encore une fois, le Père enlève de Jérusalem et de Juda le bâton et la houlette, tout le pain et toute l'eau, en parlant du châtiment à venir. Les vaillants hommes et l'homme de guerre, le juge, le prophète, le prudent et l'ancien, en parlant des jeunes, des vaillants hommes. Nous avons déjà vu que les jeunes hommes, généralement les jeunes hommes, sont ceux qui vont à la guerre. Pensez à la Première Guerre mondiale, les mères et les pères ont abandonné leurs jeunes fils, parfois âgés de 16, 17 ou 18 ans. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les jeunes qui sont envoyés au front. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts, mais pas encore sages, et qu'ils sont prêts à partir à la guerre, à donner leur vie pour la cause pour laquelle ils se battent. Dieu mentionne ici les hommes forts et les anciens, le capitaine de 50 hommes, l'homme d'honneur, le conseiller, l'astucieux, l'artificier et l'orateur éloquent, presque tous les aspects de la vie. Ceux qui sont doués de leurs mains, ceux qui sont doués de talents spécifiques d'orateur, capables d'inspirer les gens et d'enseigner aux gens. Je donnerai des enfants pour chefs, et des enfants en bas âge pour gouverner. Nous avons déjà commencé à voir un peu de cela, mais pensez à des jeunes qui gouvernent la génération plus âgée. Cela ne se passera pas bien parce que nous savons que les jeunes n'ont pas la sagesse, l'expérience dont on a besoin dans la vie. Pourtant, Dieu dit presque que ce sera en quelque sorte une punition pour ceux qui ne sont pas sages, qui ont peut-être de la force physique, et qui gouverneront. Je les laisserai dominer sur vous, et le peuple sera opprimé, chacun par l'autre. Lorsque la relation entre les jeunes et les vieux n'est plus celle que Dieu a établie et qu'il la renverse, c'est le tissu social qui commence à se déchirer. Pensez simplement au fait que vous ne voyez plus les jeunes et les jeunes jouant dans les rues, et les vieux en profitant. C'est une partie du tissu social qui se déchire dans notre société, mais ceci parle de l'avenir. Chacun selon son prochain, l'enfant se comportera avec fierté contre l'ancien et avec bassesse contre l'honorable. Encore une fois, nous revenons au proverbe où Dieu dit que la génération plus âgée, les têtes lourdes, sont les sages. Maintenant, Ceux qui sont jeunes arrivent et reçoivent le pouvoir, et qu'est-ce que cela porte? L'orgueil. Il est facile pour eux d'être fiers, pleins d'orgueil. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous, en tant que génération plus âgée, pouvez enseigner aux jeunes, peut-être parce que vous n'êtes plus aussi physiquement capable, mais grâce à votre expérience, à vos compétences, à votre expérience, à votre sagesse que vous pouvez apporter aux jeunes et qui, dans un sens, maintiennent leur fierté à distance, pour ainsi dire. Gardez-les sous contrôle. Dieu le savait et vous pouvez jouer un rôle en les aidant à être humbles, en les aidant à développer le caractère que vous avez déjà développé au cours de votre vie, afin qu'ils ne passent pas à côté de cela, qu'ils n'aient pas la tête fatiguée. Mais ce n'est pas parce qu'on a la tête dure qu'on a la sagesse. Vous devez la développer. C'est l'une des choses importantes que nous voulons souligner. Il n'est pas automatique d'avoir de la sagesse quand on a une tête chenue. Il faut la développer, et c'est important pour les jeunes aussi. Il y a un bénéfice mutuel que vous apportez. Cela ne concerne pas seulement les personnes âgées, mais aussi les parents, la relation entre les parents et leurs enfants. Dieu le savait. Il savait que les jeunes ont besoin d'être guidés et vous pouvez jouer un rôle merveilleux en tant que génération plus âgée pour aider les jeunes. Ceux-ci seront facilement remplis d'orgueil par rapport à leur propre réalisation. Encore une fois, c'est facile à faire. Parfois, il est facile de diffuser des informations. Vous voyez les jeunes sur leur téléphone en train de regarder une vidéo. Ils absorbent immédiatement les connaissances. C'est presque comme une éponge. Avec l'âge, c'est un peu plus difficile. On se demande alors si on peut retenir les informations aussi rapidement que les jeunes. Ils le font si facilement. Je dois me rappeler les choses encore et encore, mais penser aussi à la connaissance spirituelle de Dieu. Monsieur Armstrong a enseigné, et nous l'avons vu tout au long de l'ère précédente et de chaque ère, qu'il suffit d'ingurgiter de la connaissance spirituelle d'une oreille pour qu'au bout d'un certain temps, elle s'évanouisse. Il faut réapprendre et se souvenir des choses encore et encore. C'est ainsi que les générations plus âgées aident les jeunes. Vous apportez la sagesse et l'expérience que les jeunes n'ont tout simplement pas. Et je voudrais encourager les jeunes, alors que nous passons en revue le message et que nous abordons certains points, à se souvenir de l'image simple que vous avez, à savoir que vous devez lever les yeux, à veiller à ce que vous leviez les yeux. Cela ne veut pas dire qu'il faille cesser de le faire quand on a une vingtaine ou une trentaine d'années. Vous devez continuer à regarder les membres de votre congrégation pour apprendre les uns des autres. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de savoir comment regarder quelqu'un dans les yeux, comment saluer quelqu'un avec confiance. Nous avons déjà entendu un message sur la confiance. Vous pouvez avoir de la force en tant que jeune personne, de la force physique, vous pouvez aller sur Google et faire des recherches ou vous pouvez passer un test. Mais ils ne vous apprendront jamais dans ce test la simple compréhension de regarder quelqu'un dans les yeux, et avec confiance, être capable de le saluer en disant « Bonjour, mon nom est un tel », ou être capable de vous présenter et de présenter votre ami ou de vous présenter et de présenter une personne plus âgée à votre ami en disant « Monsieur un tel ou monsieur un tel ». « Monsieur un tel ou monsieur un tel », je m'appelle Peter Schmidt et voici mon ami Joanne, quel que soit le nom qui vous vient à l'esprit. C'est quelque chose que vous pouvez enseigner, en montrant l'importance d'une chose aussi simple que celle-là. Passons au 1er Pierre. 1er Pierre, et nous allons aller au chapitre 5, en reprenant ici au verset 1. 1er Pierre, chapitre 5, et nous lirons à partir du premier verset. Il est dit, « J'exhorte les anciens qui sont au milieu de vous. » Pierre est un apôtre. Il se peut qu'il parle du ministère comme étant les anciens, mais aussi des anciens de la congrégation, ceux qui sont juste les têtes blondes parmi eux. J'exhorte, moi qui suis aussi ancien, témoin des souffrances du Christ et participante à la gloire qui sera révélée. Paître le troupeau de Dieu, là nous voyons qu'il s'adresse directement au ministère pour paître le troupeau de Dieu comme nous le faisons ici à la fête et pendant la fête. Je me souviens que lors de ma première fête, j'ai entendu dire que l'on reçoit environ 25% ou un quart de toute la nourriture spirituelle que l'on recevra pendant toute l'année lors de la fête. Prenez donc note de cela et n'oubliez pas non plus de conserver vos notes en un seul endroit et de les parcourir à nouveau pour pouvoir les retenir et les appliquer une fois que nous les avons entendues. Nous attendons avec impatience les messages à venir. Mais si nous devons vivre et retourner dans le monde comme nous l'avons entendu hier, frères, nous pourrons les appliquer. Mais vous pouvez aussi commencer à appliquer ce que vous apprenez ici, maintenant, à la fête. En prendre la direction, non par contrainte, mais de bon gré. Les ministres de Dieu sont prêts à vous enseigner. Ils sont prêts à vous aider et à vous guider. Ils ne sont pas là pour une apparence défectueuse. Ils ne sont pas là pour l'argent. Ils sont là pour vous voir grandir. Voir les jeunes grandir, voir n'importe quel groupe d'âge grandir, mais aussi regarder la génération plus âgée pour qu'elle grandisse aussi. Mais avec un esprit prêt, sans être le seigneur sur l'héritage de Dieu, mais en étant des échantillons pour le troupeau. Nous pouvons aussi être, comme nous allons le voir maintenant, non seulement le ministère qui est un exemple pour vous du gouvernement de Dieu, des normes et des traditions de Dieu, mais vous pouvez faire la même chose les uns pour les autres. Nous allons le voir maintenant. Et lorsque le chef des bergers apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se fane pas. Encore une fois, cette tête hirsute est une couronne. C'est une beauté. C'est quelque chose qui devrait apporter de l'honneur. Mais en fin de compte, nous nous efforçons tous d'avoir une tête blanche à nous. Si nous sommes jeunes dans la voie de Dieu ou si nous avons passé de nombreuses années dans sa voie, notre but ultime est de recevoir la gloire finale, la domination, l'appartenance à la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants. Maintenant, nous grandissons, nous nous développons. Comme un enfant se développe dans le ventre de sa mère, nous nous développons dans l'Église de Dieu, car nous savons que nous sommes l'Église à l'état embryonnaire. Nous grandissons et nous pouvons continuer à grandir même si nous sommes plus âgés physiquement, et nous devrions continuer à grandir. Nous attendons cette couronne, cette tête ultime que nous recevrons, pour ainsi dire, la couronne de gloire, la couronne de vie éternelle dans le royaume de Dieu, qui ne se fane pas. Nous recherchons quelque chose qui ne se fane pas. Les têtes fatiguées finiront par se faner. La sagesse que nous possédons, elle, ne s'effacera pas. C'est le caractère que vous et moi construisons. De même, alors que nous continuons et que nous arrivons au point ici, frères, de même, vous les plus jeunes, soumettez-vous à l'aîné. Les jeunes, Dieu donne des instructions à tout le monde. Nous sommes tous plus jeunes les uns que les autres. Il y aura toujours quelqu'un de plus âgé que vous, comme nous l'avons entendu lors des repas pendant les jours saints, que certains d'entre nous participent à toutes les activités. Il y a aussi des personnes âgées de plus de 102 ans. Je dois encore rencontrer cette personne. Mais je me souviens qu'en Afrique du Sud, nous connaissions un homme. Il vivait en fait au Lesotho, un membre de l'Église de Dieu qui est décédé cette année et il avait, je crois, 101 ou 102 ans. Le peuple de Dieu atteint donc cet âge. Nous avons beaucoup de personnes dans la voie de Dieu qui ont plus de 90 ans. J'ai connu récemment une membre, ici au Canada, qui avait elle aussi 90 ans. Dieu nous bénit donc avec l'âge. Il y aura toujours quelqu'un à qui il faudra se soumettre. Soumettez-vous à l'ancien. Vous, oui. Est-ce un terme canadien que Dieu utilise? Je n'en sais rien. Vous entrez dans les magasins et à la fin, je pense que les femmes de ménage, ma femme m'a mentionné ce matin, les femmes de ménage sont venues dans notre chambre hier et nous avons eu une conversation avec elles et après chaque phrase, elles diront « yé ». C'est peut-être pour cela que nous sommes au Canada. Nous agissons comme les Canadiens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous êtes à Rome, agissez comme un Romain. Quand vous êtes au Canada, agissez comme un Canadien. Oui. Soyez tous soumis les uns aux autres. Dans cette relation, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre les uns des autres. Je ne veux pas m'avancer, mais soyez soumis les uns aux autres et soyez revêtus d'humilité. Là, nous voyons déjà que les jeunes peuvent facilement tomber par leur expérience de ce qu'ils ont fait comme nous obtenons des accomplissements dans nos vies par ce que nous avons fait, les choses que nous avons pu faire, Dieu nous a permis de faire par les talents qu'il nous a donnés, la compétence que nous avons pu construire, mais il est important d'avoir ce caractère d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Reposez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Il s'agit là d'un petit encouragement et d'un réconfort pour les plus âgés d'entre nous, qui peuvent s'adresser à Dieu pour tous les problèmes qu'ils rencontrent, les préoccupations qu'ils ont, les soucis qu'ils ont. Lorsque nous vieillissons, les soucis deviennent de plus en plus nombreux. Cette douleur que j'éprouve en sortant de la voiture ou du lit, je ne l'avais pas ce matin. D'où vient-elle? Tout simplement du fait que notre corps a tendance à se dégrader. Il n'est plus aussi fort et vous pouvez vous adresser à Dieu en comptant sur lui pour vos soucis. Mais il est dit encore une fois, frères, soumettez-vous les uns aux autres. D'une génération à l'autre, des jeunes aux vieux, combien de fois pensez-vous et pensez-vous que nous savons que nous devons nous soumettre à Dieu? Nous savons que les femmes doivent se soumettre à leur mari. Nous savons que nous devons nous soumettre à l'instruction, à l'orientation et au conseil du ministère. Mais combien de fois pensez-vous au fait que la génération plus âgée et la jeune génération parmi nous peuvent s'enseigner mutuellement, s'aider mutuellement à développer ce caractère qui est tellement nécessaire dans les deux sens, en pensant à ce jeune garçon qui marche dans une direction avec son petit déambulateur, un déambulateur Fisher-Price, et qui est stupéfait par l'homme âgé. L'homme âgé est étonné de voir ce jeune garçon et vous pouvez voir ce sourire sur le visage du jeune, ou de l'homme âgé juste parce qu'il a vu un jeune garçon et que ce garçon ne l'a pas ignoré. Il regarde naturellement vers celui qui est plus âgé. Passons à Job. Job, chapitre 12. Parfois, en pensant à moi, tout le monde parle un peu plus à cœur ouvert, et on peut souvent regretter les occasions que l'on a manquées en tant que jeune garçon de passer plus de temps avec nos grands-parents. Je n'ai pas grandi à la manière de Dieu. Je n'ai pas eu l'occasion et le privilège d'être chaque sabbat avec le ministère ou chaque sabbat avec des personnes âgées dans ma congrégation. J'avais mes grands-parents. Mais si vous pensez à vos parents ou à vos enseignants, vous n'avez parfois pas passé assez de temps à apprendre de la génération plus âgée. Vous avez tendance à penser, « Waouh, je serai capable de faire cela. J'apprendrai cela dans un livre. » Aujourd'hui, ils pensent à Google, à la chaîne YouTube ou à quelqu'un qu'ils suivent et qui a le même âge qu'eux. Nous pensons que nous pouvons apprendre de cela, mais il y a tellement plus. Je regrette de ne pas m'asseoir suffisamment et de ne pas passer assez de temps avec mes grands-parents lorsque je grandissais. C'est quelque chose que les jeunes devraient prendre à cœur. Dieu vous a donné la bénédiction de pouvoir, chaque semaine, être ensemble et partager cette compréhension commune de la voie de Dieu, des objectifs communs, mais aussi d'apprendre les uns des autres. Vous êtes ici au chapitre 12 de Job, et nous reprenons au verset 9. Qui ne sait pas que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela, et que c'est la main de l'Éternel qui est l'âme, la vie de tout ce qui vit, et le souffle de tous les hommes. Nous connaissons et pensons au début de Job, lorsque Satan est venu à Dieu, et à l'échange entre Dieu et Satan. En fin de compte, Dieu avait le pouvoir de permettre à Satan d'aller aussi loin que possible. Il ne pouvait pas aller plus loin. En fin de compte, Dieu a votre vie et la mienne entre ses mains. Si nous vieillissons, c'est quelque chose qui commence à nous errer dans notre esprit. Nous avons tendance à penser un peu plus. Je sais que si les grands-parents, les grands-parents de nos enfants sont loin, à quoi pensent-ils? Ils pensent à leurs petits-enfants. Et souvent, cela peut aller jusqu'à l'obsession pour les grands-parents, comment vont mes petits-enfants? Et ils commencent à penser au passé plus qu'au présent. Ils commencent à penser au passé plus qu'au présent, à se demander ce qui va se passer quand ils vont mourir. On commence à s'inquiéter, à penser à la fin de sa vie et à s'inquiéter de tout cela. Dieu dit, non, je contrôle la situation. C'est moi qui contrôle. Quand vous êtes né, quand je vous ai donné, quand vous êtes devenu une âme vivante, c'est moi qui vous ai donné le souffle. Oui. Les médecins ont aidé à vous mettre au monde, à vous donner vie et à aspirer toute la bave et toutes les choses de votre bouche, et soudain le bébé a commencé. L'infirmière vous a donné une tape dans le dos et sur les pieds et vous a frotté, puis vous avez commencé à pleurer, et vous avez eu faim. Cette première respiration, c'est finalement Dieu qui a fait de nous une âme vivante, une créature vivante qui respire. Il dit oui. Job s'adresse à ses amis pour leur dire qu'en fin de compte, la vie et la mort sont entre les mains de Dieu, et que vous et moi, nous sommes ses enfants, et qu'il vous donnera du réconfort en vieillissant, mais nous allons en venir au fait maintenant. L'oreille ne goûte-t-elle pas des paroles, et la bouche ne goûte-t-elle pas ceci ou cela, ou sa viande, avec la sagesse des anciens et l'intelligence des anciens jours? Le mot « ancien » signifie les vieux, les personnes âgées. Mais Dieu s'est décrit lui-même ici au verset 13. Il a auprès de lui la sagesse et la force, il a auprès de lui le conseil et l'intelligence. Il a auprès de lui le conseil et l'intelligence. Dans la marge, il est écrit, avec Dieu. Ils sont dans l'échange entre Job et ses amis. Ils disent en fait, qui est le véritable ancien? Qui est le véritable sage? Et c'est Dieu. Mais il s'est décrit comme ancien. Il s'est décrit comme une génération plus ancienne, pour ainsi dire, que vous et moi pouvons comprendre. Au cours de cette conversation, alors qu'il réfléchissait et débattait de la question, que se passe-t-il avec Job? Pourquoi passe-t-il par ce test ou cette épreuve, alors qu'il est dit que la sagesse est avec l'ancien, que l'intelligence est avec l'ancien, que la sagesse et la force sont avec lui? Et la force. C'est donc lui qui donne la force au jeune homme, à la jeune fille, et il donne la force à la personne plus âgée, la force de la sagesse, la force de l'expérience que vous avez. Dieu a mis en gras. Il l'a conçu de cette manière pour se refléter lui-même. Frère, Dieu possède toutes ses caractéristiques. Sa puissance. Nous avons dit et vu au début qu'il est le Seigneur des armées. Il a la force en lui-même, mais il a donné la force spécifiquement à la jeunesse, au jeune homme. Il veut que la génération plus âgée fasse preuve d'audace et de sagesse. Mais encore une fois, cela ne vient pas par la peur, cela ne vient pas tout seul. En tant que jeune, vous devez prier pour cela, en demandant à Dieu de vous donner de la sagesse. La sagesse signifie simplement savoir à chaque instant où l'on en est dans sa vie, ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. C'est probablement la chose la plus difficile dans la vie. C'est la chose dont la plupart des gens ont le plus besoin, le caractère. Ce caractère qui permet de faire la bonne chose au bon moment. Quand on pense aux dirigeants d'aujourd'hui, on entend sur les médias sociaux que lorsqu'ils ont dit ou fait quelque chose, les gens disent « Pourquoi n'a-t-il pas agi de cette façon ?» ou « Pourquoi n'a-t-il pas dit telle ou telle chose ?» Les gens disent les mauvaises choses au mauvais moment et cela a des répercussions. Les gens font ce qu'il ne faut pas faire au mauvais moment et cela a des répercussions. Dieu dit, non, pour vous et moi, dans son Église, nous pouvons demander la sagesse. Et c'est une chose pour laquelle nous devrions prier chaque jour. Pour les jeunes, en particulier, cela ne viendra pas tout seul. Regardez le verset 20. Il ôte la parole à ceux qui ont confiance, il ôte l'intelligence à ceux qui sont âgés. En fin de compte, frères, Dieu sait ce que vous traversez. Il sait quand vous oubliez, comme l'ancienne génération commence à oublier. Il sait quand nous sommes fragiles. Il sait quand nos forces s'épuisent. Il comprend cela en fin de compte. Il l'a conçu de manière à ce que nous puissions grandir, mais il contrôle la situation, mes frères, il comprend. S'il peut nous enlever la compréhension, comme le dit ce verset. Dans les versets précédents, il est dit qu'il peut aussi donner de la compréhension. Il peut vous donner et continuer à vous aider à conserver l'intelligence, même quand vous grandissez ou quand vous êtes déjà vieux. Dieu veut que nous comprenions que c'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence, et il sait exactement ce que vous vivez à chaque instant à travers vos épreuves physiques, à travers vos défauts au fur et à mesure que nous vieillissons. Il comprend cela. Passons à Job 32. Il n'y a aucune raison de craindre, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou d'être anxieux à ce sujet. Job, chapitre 32 et verset 4. Je pense à un jeune homme dans la conversation avec Job, à ses amis qui sont venus pour le soutenir, mais finalement, avec le temps, cela ne s'est pas très bien passé et les choses sont devenues incontrôlables, pour ainsi dire, et il y a eu des choses dites de la part de Job et de leur part. Et là, il est dit, or, Élihu avait attendu que Job ait parlé parce qu'ils étaient plus âgés que lui. Ce jeune homme a donc accordé à Job le respect dont il avait besoin. Faites-vous cela lorsque vous êtes jeune? Qui vous enseigne ce respect? La génération plus âgée peut aider les jeunes à apprendre ce respect. Élihu savait que quelqu'un devait lui apprendre à respecter la génération plus âgée. On ne voit plus cela dans les épiceries, où les jeunes ouvrent peut-être la porte à une personne âgée, ou disent « Puis-je porter ce sac pour vous? » Ou bien vous portez trop de sacs à la sortie de l'épicerie ou après un repas partage, vous avez votre mijoteuse à la main et vous avez votre sac avec votre jus de fruits et tout le reste dans la main, et vous essayez d'équilibrer toute cette tour de choses que vous portez jusqu'à votre voiture. Les jeunes sautent et utilisent leur force pour soutenir les plus âgés. Élihu, même s'il a commis des erreurs tout au long de sa conversation avec Job, a compris qu'il fallait faire preuve de respect. C'est un autre point à souligner, les jeunes doivent avoir du respect. Si vous respectez les personnes plus âgées, en fin de compte, vous montrez du respect à Dieu. Vous montrez que nous apprenons à craindre Dieu. Les adolescents pourraient demander, comment puis-je apprendre à craindre Dieu? Je n'ai pas encore été baptisé. Je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Comment puis-je apprendre à craindre Dieu? D'une part, nous nous réjouissons qu'il ait eu la fête, mais nous devons aussi nous éloigner, rentrer chez nous et regarder en arrière et dire, je crains Dieu plus qu'hier, ou le premier jour, ou le soir de l'ouverture. C'est l'une des façons d'apprendre à craindre Dieu, pour tous les jeunes. Il ne s'agit pas seulement de la jeune et de l'ancienne génération. C'est à tous ceux qui sont entre les deux, ceux qui sont plus âgés que nous pouvons montrer du respect. Lisons le verset 7. Il dit, « J'ai dit qu'il parlerait, et que la multitude des années enseignerait la sagesse. » Il a compris que s'il respectait la génération plus âgée, celle-ci finirait par s'ouvrir. Peut-être que cela prendra un peu plus de temps. Peut-être que les pensées ne sont pas aussi rapides que lorsqu'on était jeune, ou que l'on n'est pas capable de s'exprimer de la même manière que lorsqu'on était jeune. En fin de compte, les jeunes attendent cette sagesse, exploitent cette sagesse. Ils partent à la recherche de cette sagesse. Je me souviens qu'il y a quelques années, nos enfants, à un moment donné à Chicago, nous. Je peux parler de mes enfants alors que je suis ici devant, mais nous avons eu la nuit d'être observés à Chicago et nous avions la salle, un peu plus petite qu'ici, celle qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Je pense que l'année dernière, nous avons eu la joie de retrouver la congrégation de Chicago pour l'expiation, alors que nous nous rendions à Salt Lake City pour la fête. Nous nous sommes réunis au même endroit qu'il y a des années. Cela m'a rappelé, tout comme cela m'est rappelé aujourd'hui, que nous avions sorti les tables rondes et que c'était la soirée à ne pas manquer. Notre famille s'est retrouvée seule autour de la table. Les chiffres se sont imposés d'eux-mêmes. Nous sommes quatre dans la famille. Les tables étaient petites et personne ne pouvait s'asseoir avec nous. Et notre fils a dit, « Non, il ne veut pas s'asseoir avec nous. Il veut aller s'asseoir à l'autre table avec deux veuves parce qu'il veut leur parler. Et il veut apprendre d'elles. » De toute évidence, c'est peut-être ce qui s'est passé dans son esprit ou non. Il voulait peut-être simplement manger plus, mais il a dit qu'il voulait passer du temps avec elle. C'est juste un exemple simple, quelque chose que vous pouvez faire en tant que jeune. Des choses simples que vous pouvez appliquer pour montrer ce respect, pour apprendre cette sagesse. Frères, il ne s'agit pas d'un message compliqué avec des centaines d'éléments différents que nous pouvons apprendre. Il s'agit d'un message de base qui nous invite à apprécier la relation entre les jeunes et les personnes âgées que Dieu nous a données, à passer du temps, à voir comment nous pouvons favoriser ces relations entre nous, les rendre plus fortes et, en fin de compte, construire la fibre de la société qui se déchire, car quelque chose d'aussi simple qu'une relation peut la renforcer. La sagesse de Dieu, mes frères, reflète un autre type de force. Allons au chapitre 3 de Jacques. Oui, la jeunesse peut se glorifier. Allez au chapitre 3 de Jacques. Oui, les jeunes peuvent se vanter de leur force. C'est bien. C'est ce que Dieu voulait. Il a donné au jeune homme la capacité de construire son corps, en fin de compte pour servir les autres, en fin de compte pour être capable de soutenir une famille un jour, pour aller dans le métier qu'ils ont besoin de faire, où ils ont besoin d'avoir ce muscle pour soulever un pneu ou changer la roue ou changer le moteur ou être un ingénieur, tout ce qu'ils ont besoin de faire, tondre la pelouse. Les hommes sont la génération la plus forte. Dieu a demandé aux jeunes d'être plus forts. Il voulait qu'ils le soient, mais cela ne doit pas s'arrêter là. Regardons la sagesse de Dieu, mes frères. Elle reflète un tout autre type de force. Il ne s'agit pas seulement d'une force physique. Jacques, chapitre 3 et verset 13. Ici, dans ma Bible, il y a en entête, et il est dit, la vraie sagesse vient de Dieu. Nous reprenons ici au verset 13, et il est dit, qui est parmi vous un homme sage et plein de connaissances, qui, au cours de ses années d'apprentissage, d'études, de lecture de livres et, aujourd'hui, d'utilisation d'Internet, a acquis de la sagesse. de la sagesse humaine, qu'il montre, paragraphe une bonne conversation, paragraphe une bonne conduite, ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Il y a donc de la douceur dans la sagesse, et la douceur signifie être soumis à Dieu. Si vous pensez à un animal, un cheval fort, un étalon sauvage, et à ces mustangs aux États-Unis qu'ils ont dû apprivoiser, je sais qu'en Afrique du Sud, ou en Amérique du Nord, il n'y a pas d'autre moyen de les apprivoiser. Je sais qu'en Afrique du Sud ou en Afrique, on a essayé d'apprivoiser le zèbre. Le zèbre est un cheval, une sorte de cheval, pour ainsi dire, mais on ne peut pas l'apprivoiser. Mais les gens ont découvert que l'on pouvait apprivoiser les chevaux, mais qu'il fallait que l'animal se soumette. On peut même apprivoiser les éléphants et, à un moment donné, ils peuvent se soumettre aux êtres humains. C'est ce que signifie la douceur. C'est soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, c'est plier son propre esprit, sa propre volonté qui est si forte, en particulier cette dureté de notre esprit en tant qu'Israélite et ceux qui ont grandi en Israël, cette dureté comme Dieu le dit, mais c'est avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans le cœur de l'envie amère et des querelles, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse. Il est donc question d'une sagesse, mais d'une sagesse différente. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais elle est terrestre, sensuelle et diabolique. Il s'agit donc d'une sagesse mondaine comparée à la sagesse de Dieu. Regardons la sagesse de Dieu que vous voulez cultiver pour les jeunes et pour nous qui vieillissons. Car là où il y a de l'envie et des querelles, il y a de la confusion et toute œuvre mauvaise. Encore une fois, la confusion brise les relations. Les mauvaises œuvres brisent les familles, elles brisent la structure de la famille, elles brisent cette relation spéciale entre les jeunes et les vieux. Mais la sagesse qui vient d'en haut, le type de sagesse de Dieu, c'est ce que vous et moi devrions nous efforcer d'atteindre. C'est pourquoi nous avons 7 jours pour apprendre à nous couper du monde, à nous asseoir tranquillement, à profiter de beaucoup de choses, mais aussi à prendre le temps de méditer sur la voie de Dieu, sur sa sagesse. Par-dessus tout, elle est d'abord pure et ensuite paisible. En vieillissant, vous vous dites peut-être, je n'ai plus rien à offrir aux jeunes. Je n'ai plus rien à offrir à la congrégation. Je ne peux pas soulever ce lourd lutrin qu'ils ont là au siège. Parfois, 2 ou 3 jeunes hommes doivent se pencher et se casser le dos pour soulever ces lourds lectins avec les cylindres qui montent et descendent. Je ne pense pas que celle-ci en fasse partie. Si j'essaie de la soulever, je la soulèverai probablement facilement, mais il faut de la force pour cela. C'est quelque chose de différent. En tant que génération plus âgée, avez-vous, au fil des années d'obéissance à Dieu, vous êtes plus pur. Vous devriez refléter plus de pureté, plus de sagesse. Et dans la sagesse, il y a la pureté, c'est-à-dire le mode de vie de Dieu par l'obéissance à lui, qui fait que l'on devient plus pur. Et puis pacifique, peut-on apporter la paix quand il n'y a pas de paix? Pour les jeunes, il est facile de s'efforcer. Pensez aux enfants qui retournent en voiture lorsqu'ils conduisent, qui viennent à la fête ou qui partent en vacances. Quand nous étions jeunes, je me souviens que je m'asseyais d'un côté, ma sœur de l'autre, et mon frère. Nous étions 3 à l'arrière. À l'époque, il n'y avait pas de SUV ni de véhicule plus grand. Ils se disaient, est-ce qu'on va profiter de la balade? Et quelques kilomètres plus loin, il se disait, non, c'est à moi. Et c'est, donnez-moi ça et vous serez couché sur mon épaule. Je sais que, vous savez, les conflits sont fréquents entre les jeunes. Mais en tant que personne plus âgée, êtes-vous capable d'apporter la paix quand il n'y a pas de paix dans une congrégation? Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur. Grâce à votre expérience de la vie, vous pouvez apporter rapidement la paix dans une congrégation parce que vous avez cette expérience. Vous avez acquis et développé une force que les jeunes n'ont pas. Il s'agit d'être pacifique ou doux. Doux avec les jeunes, doux avec les personnes âgées, doux avec les nouveaux venus dans la congrégation. Pensez au cas où le pasteur invite quelqu'un et qu'il ne peut pas être présent ce sabbat-là. Êtes-vous gentil avec la nouvelle personne qui arrive? Faites-lui sentir qu'elle est chez elle, qu'elle est la bienvenue, qu'elle ne veut plus jamais partir. Qu'ils veulent rester dans cette congrégation dès le premier jour pour le prochain sabbat et le prochain qui viendra à la fête et finalement pour recevoir leur couronne de gloire aussi. Êtes-vous en mesure d'apporter cela? C'est une force. Une force que les jeunes n'ont pas encore, mais ils peuvent se tourner vers vous. Et s'ils voient cela par simple observation, ils sont capables de la développer. C'est donc quelque chose que vous avez et qu'ils n'ont pas. Et facile à implorer. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez vos propres règles. Vous voulez faire telle ou telle chose de telle ou telle manière. Et quand le pasteur, ou même quelqu'un, le chef de scène ou l'huissier dit, non, faites ceci de cette façon. La sagesse de Dieu peut facilement comprendre que ma façon de faire n'est pas la meilleure. Qu'il y a peut-être une meilleure façon de faire quelque chose que ce que je pensais. J'ai toute l'expérience de la vie, mais la sagesse signifie que, même si l'on est plus âgé, on se laisse facilement séduire. Cela signifie que vous pouvez facilement discerner s'il est préférable de faire quelque chose d'une certaine manière et que vous êtes d'accord et dites, d'accord, faisons-le de cette manière. Faisons-le de cette façon. C'est ce que signifie être facilement traité. Plein de miséricorde tout au long de votre vie, vous avez eu besoin, combien de Pâques avez-vous traversé? Combien de fois avez-vous dû vous prosterner devant Dieu et lui demander pardon? Vous commencez également à devenir miséricordieux. Vous n'êtes pas aussi prompt à porter un jugement lorsque quelqu'un commet une erreur. Votre enfant, votre petit-enfant ou un membre de la congrégation. Vous êtes doux et plein de miséricorde. De bons fruits. Tout au long de votre vie, vous développez de bons fruits et vous continuez à les développer sans partialité. Vous regardez tous les membres de l'assemblée, excusez-moi, j'ai failli arracher le micro de sa place tellement j'étais excité. Mais vous pouvez regarder la congrégation et tout le monde est le même, vieux et jeune, d'une nouvelle personne à une personne plus âgée qui a suivi le chemin de Dieu. Il peut s'agir d'une personne issue du monde entier ou d'une personne venant du monde entier. Peu importe la race, l'âge, le groupe ethnique. Vous pouvez voir cela sans partialité, ce qui signifie que vous ne prenez pas parti lorsque vous pensez aux gens. Vous ne mettez pas une personne au-dessus d'une autre, plus importante qu'une autre. Vous pouvez comprendre ce qu'est la voie de Dieu, sans hypocrisie. Et le fruit de la justice se manifeste dans la paix de ceux qui font la paix. Voilà donc la liste des nombreuses caractéristiques que les jeunes peuvent développer, mais nous aussi, qui sommes plus âgés, nous devons faire preuve d'une force différente de la force physique. Et les jeunes, lorsqu'ils voient ces choses, doivent presque convoiter ce que la génération plus âgée peut leur apporter. Car si vous apprenez cela plus rapidement, vous ne voudrez peut-être pas faire la même erreur que les autres. Je pense par exemple à la région où je travaille en tant que médecin, où les hivers ne sont pas si froids que cela. Mais les gens vivraient dans une maison en tôle ondulée et la maison pourrait être encore plus petite que la surface de cette scène. Une famille de X personnes y vit, et il s'agit souvent d'enfants en bas âge. Ils n'ont donc pas de chauffage. Ni de chauffage central comme ici, ni de climatisation centrale. Ils laissaient parfois le poêle allumé, La plaque du poêle. Le poêle a deux plaques pour créer de la chaleur dans la maison. Et ce qui se passe, c'est que les petits mettent souvent leurs mains dessus, ou que l'eau chaude leur tombe dessus, ce qui provoque de nombreuses brûlures chez les enfants lorsqu'ils sont plus jeunes. En tant que jeune, vous voulez éviter ces erreurs. Lorsque vos parents vous disent de ne pas mettre la main sur la cuisinière, vous ne voulez pas le faire. Vous pouvez apprendre plus rapidement en observant ce que les frères sages de la congrégation, ici à la fête, peuvent apporter. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes erreurs qu'eux. Vous pouvez apprendre d'eux. Allons au psaume, d'abord Ésaïe avant d'aller au psaume. Allons à Ésaïe. Ésaïe 46. Frères, la gloire de la tête rousse est liée au fait d'être trouvé dans la justice de Dieu. Ce n'est pas automatiquement que l'on va développer la sagesse, que l'on va développer le caractère. Elle est liée à l'obéissance à Dieu, un processus de toute une vie, qui commence pour les jeunes, pour ceux qui seront baptisés aujourd'hui, vous recevrez un acompte de l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que commence votre voyage en tant qu'enfant de Dieu. Mais vous devez continuer à le faire pour le reste de votre vie. Allons à Ésaïe 46 et lisons le verset 3. Dieu dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et tous les restes de la maison d'Israël, qui sont nés de moi dès le ventre, qui ont été portés par moi dès le sein maternel, jusqu'à la vieillesse, c'est moi. Dieu dit, je vous porterai jusqu'à la vieillesse. J'ai fait et j'ai porté. Je porterai et je délivrerai. Pouvez-vous dire ces choses? Je suis sûr, mes frères, que vous le pouvez. En pensant à votre vie, ne serait-ce qu'en arrivant à la fête ou en traversant cette année, comment pouvez-vous témoigner du fait que Dieu dit aux personnes âgées, à ceux qui sont âgés, qu'il nous a portés? Même les jeunes peuvent dire qu'il nous a portés à travers notre expérience, à travers les tests et les épreuves, et qu'il promet de nous porter encore. Mais ce verset spécifique réconforte ceux qui sont plus âgés parce qu'ils continuent à lui obéir. Vous continuez à suivre sa justice. À qui me comparerez-vous? Dit Dieu au verset 5. Et me rendre égal et me comparer pour que nous soyons semblables. Rien ne ressemble à Dieu. Il n'y a personne qui ressemble à personne qui a ce caractère qu'il peut vous donner si vous continuez à marcher dans ses voies. Continuez à suivre son mode de vie. Passons au psaume 71. Encore une fois, la gloire que vous recevez, frères, et que je reçois jeune et vieux, la gloire, la vraie gloire que nous recherchons est liée à la justice de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus rapide que moi pour aller à l'écriture. J'entends les pages s'arrêter à un moment donné et je suis toujours en train de tourner la page. C'est une bonne chose. Verset 9 du chapitre Psaume 71. Vous pouvez y aller, nous avons un hymne, je pense que nous l'avons chanté hier. Si je me souviens bien. Je ne me souviens plus du numéro de l'hymne, mais il s'agit du psaume 71. C'est un bel hymne qui parle de la vieillesse. Mais ici, nous avons écrit 9. Il est écrit, ne m'abandonnez pas au temps de la vieillesse. Ne m'abandonne pas quand mes forces faiblissent. David comprenait qu'il était un jeune homme. Il était entouré d'hommes puissants. Il était un soldat. C'était un guerrier. Qu'est-ce que les dames lui ont chanté quand Salomon a tué son? Je ne me souviens plus du nombre, mais David a tué ses 10 000 hommes, quelque chose comme ça. Il était bien meilleur, c'était un guerrier plus fort. Dieu ne lui a pas permis de construire le temple à cause du sang qu'il a versé. Il connaissait la force physique. Il en avait probablement beaucoup lorsqu'il protégeait les moutons de son père. Il a dû chasser et tuer un lion, un ours et un loup, si je me souviens bien. Mais ce n'est pas lui qui a été choisi pour devenir roi. Dieu a décidé de le faire roi, et tout au long de ces années, il a appris cette leçon importante. Il est devenu vieux et a dû prier Dieu, ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Souvenez-vous de ce que j'ai fait dans ma jeunesse, que je vous ai obéi, Dieu, que j'ai continué à suivre votre mode de vie. Au verset 5, il est dit, Car tu es mon espérance, Seigneur Dieu. Tu es ma confiance dès ma jeunesse. Nous avons commencé par lire les proverbes. Les proverbes ont été écrits par Salomon, le fils de David. David, en tant qu'homme plus âgé et en tant que père, a enseigné à Salomon beaucoup de choses qu'il connaissait. Une grande partie de la sagesse que Salomon avait, en fin de compte, il pouvait se coucher dans son lit, Oh, mon père a dit ça. Oh, c'est le dicton que mon père a dit. Il pourrait très probablement se souvenir de ces choses. Mais David dit ici, depuis sa jeunesse, lorsqu'il était jeune et fort, comme Salomon l'a dit dans les Proverbes, ma beauté vient de ma force, et quand je serai plus vieux, la tête fatiguée sera à l'honneur. David a compris ce même principe, mais il a dû l'apprendre aussi en vieillissant. Mais il a continué à faire confiance à Dieu depuis sa jeunesse jusqu'au point que nous avons commencé à lire au verset 9, et j'ai volontairement sauté au verset 5 pour montrer qu'il a fait confiance à Dieu depuis sa jeunesse. Passons au psaume 92. Il est dit ici, au verset 4, Car toi, Seigneur, tu me réjouis par ton œuvre. Je me réjouis de l'œuvre de tes mains. Seigneur, que tes œuvres sont grandes et que tes pensées sont profondes. Au verset 13, il est dit, Ceux qu'il a plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de Dieu. Est-ce que vous et moi continuons à fleurir? Continuons-nous à grandir? Continuons-nous à vaincre en tant que peuple de Dieu? Vous ne devez pas cesser de grandir en tant que chrétien. Vous ne devez pas cesser de vaincre en vieillissant. Si vous continuez à faire confiance à Dieu, à suivre son chemin, à rechercher la gloire, vous continuerez à grandir et à vaincre, et vous serez un exemple pour les jeunes. Je voudrais passer à Tite 2. Passons au chapitre 2 de Tite. Ce que vous pouvez enseigner aux jeunes. Pensez à toutes les choses que les gens ont pu enseigner à travers les âges. J'ai ici une liste des âges de certaines personnes qui ont vécu et qui sont décrites dans la Bible. Adam a vécu 930 ans. Quelle sagesse aurait-il pu acquérir s'il s'était repenti et avait changé? En fin de compte, qu'a-t-il appris en 930 ans? Mathusalem, 969 ans que Dieu lui a donné. Noé, 950 ans. Abraham, 175 ans. Sarah, pour les femmes, 127 ans pendant lesquels elle a continué à grandir et à se forger un caractère, à vaincre. Isaac, 180 ans. Jacob, 147 ans. Moïse, 120 ans. Quelle force de caractère ont-ils pu développer pendant toutes ces années? Et comme vous êtes ici, dans le chapitre 2 de Tite, je vais lire le verset 2. Pour que l'âge soit sobre. Il s'agit d'une liste, et vous pouvez rentrer chez vous en pensant aux hommes, spécifiquement aux hommes âgés, ce sont les choses que vous pouvez enseigner aux jeunes gens, être sobre, être grave, être tempéré, avoir la maîtrise de soi, être solide dans la foi, dans la charité, dans la patience. Quant aux femmes âgées, qu'elles aient une bonne conduite, c'est-à-dire qu'elles deviennent saintes, qu'elles ne soient pas de fausses accusatrices, qu'elles n'abusent pas du vin, qu'elles enseignent les bonnes choses. Vous êtes là pour enseigner à la jeune génération et à tous ceux qui vous entourent afin qu'ils enseignent aux jeunes femmes à être sobres, à aimer leur mari et à aimer leurs enfants, à être discrètes, à être chastes, c'est-à-dire modérées, à garder leur foyer, à être bonnes, à obéir à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Cela signifie que la voix de Dieu peut être glorifiée par vos actions, simplement par le fait que vous enseignez à la jeune génération. Passons à un dernier verset, mes frères, en revenant à Ésaïe. Ésaïe, chapitre 11 et verset 6. Reprenons au verset 6. En repensant à notre point de départ, à l'image du millénaire ou du royaume, à la première année du plan de Dieu, aux sept années menant au millénaire, au royaume de Dieu, aux trois mesures de repas, pour ainsi dire, que nous pensons et festoyons en cette fête des tabernacles, il est dit, et le juste sera la ceinture de ses reins. Au verset 5. Et la fidélité, la ceinture des reins. Le loup habitera avec l'agneau. Et le léopard pense à ce qui nous attend. Se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et l'animal gras ensemble, et un petit enfant les conduira. Ils ont appris grâce à cette relation entre jeunes et vieux. La vache et l'ours paîtront, leurs petits se coucheront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le lion mangera de la paille comme le bœuf, et l'enfant qui tête jouera sur le trou de l'aspic. Pour revenir à cette image, ceux avec quoi ils joueront, les plus âgés, apprécieront ce qu'ils voient et se réjouiront. L'aspic et l'enfant se verront mettront la main sur le repère de la blatte. Ils ne feront ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Frères, cette relation entre jeunes et vieux que nous avons commencé ne sera jamais détruite. Il y aura un moment où nous verrons qu'elle disparaît. Mais Dieu prophétise qu'à l'avenir, lorsque nous célébrerons et penserons à ces choses, cette relation entre les jeunes et les personnes âgées sera rétablie. En tant que jeunes, vous apportez la curiosité, l'énergie, la force et l'enthousiasme de votre jeunesse, le début d'une famille, le début d'un emploi. Ce sont les choses que vous apportez à la table. Pour les personnes plus âgées, pour la génération plus âgée parmi nous, vous apportez la sagesse, vous apportez la réflexion et la possibilité de savourer et d'enseigner ses fruits à la jeunesse, cette sagesse. Frères, continuons, pendant le reste de cette fête, à savourer et à réfléchir à cette relation spéciale entre les jeunes et les personnes âgées et aux leçons que nous en avons tirées aujourd'hui.